Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, dans la grande table des idées à partir de 12h55. Rendez-vous avec deux invités, l'écrivain franco-djiboutien Abdourahmane Waberi. Il vient de co-signer avec Alain Mabankou un dictionnaire enjoué des cultures africaines, c'est chez Fayard. Il sera rejoint en deuxième partie par Rémi Rioux, le président de l'Agence française de développement, auteur quant à lui de Réconciliation aux éditions Débat public. Mais d'abord, théoricienne de la musique dans Dialectique de la pop, musicienne pratiquante sous le pseudonyme nom de scène La Féline avec Xavier Thierry, arrangeur, pianiste, réalisateur, son complice, Agnès Guéraud revient avec un troisième et nouvel album Vie Future. Elle sera aussi en concert le 12 décembre au Café de la Danse à Paris avec d'autres dates à suivre. Elle est pour l'heure surtout notre invitée à écouter jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Agnès Guéraud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Palmier sauvage nous projette dans un monde où la chaleur plombe, l'eau manque, un début, une fin, une vie, une terre, mais un désastre collectif. C'est le premier single de ce nouvel album qui est sorti. Un mot de l'atmosphère de ce titre qui semble tout de suite poser le décor.
Oui, j'écris souvent les textes en fonction de la musique. Et ce rythme un peu languide, c'est pas que de la langueur, quoi. Il y a quelque chose aussi d'une chaleur comme ça, trop grande, d'une torpeur en fait. Je mets de la torpeur et de la langueur dans languide, mais en tout cas, ça m'a entraînée vers ces paroles et puis aussi voilà ce dans quoi on baigne tous, ces informations en permanence absolument alarmantes sur ce qui va advenir de nous. Après c'est pas j'ai pas du tout voulu faire une chanson sur le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, c'est pas une chanson à thèse. Il s'agit juste de parler du monde dans lequel on vit, comme un bluesman parle du monde dans lequel il vivait, parler du monde dans lequel il vivait en 1919. Voilà.
Voir du monde dans lequel on vivra, parce que c'est un titre qui se conjugue quand même assez naturellement au futur. Vous vous projetez beaucoup, souvent, dans l'avenir, vous,
oui,
personnellement.
Je pense que c'est un trait de Pascal dit que c'est justement notre malheur. mais il se trouve que le pronostic, la projection, ça caractérise beaucoup de discours aujourd'hui. Et la politique a toujours été empreinte de cette dose de discours de Cassandre ou de devin qui annonce les choses à venir. Et bon, aujourd'hui, on est beaucoup à une époque où les Cassandres se multiplient. Alors, c'est pas la Cassandre, on espère qu'elle a tort, mais là, ils n'ont peut-être pas tort.
Boulevard mort étouffé.
réouvert les micros. C'est bien. On va pouvoir reprendre la discussion. Pardon, on avait commencé une discussion un peu parallèle ensemble sur la science-fiction, sur l'anticipation, Agnès Guéraud. C'est un genre littéraire et cinématographique. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la musique doit aussi, ou en tout cas le droit de s'en emparer de ce genre-là?
Alors ça fait longtemps qu'il y a il y a un goût de la pop pour la science-fiction. Qu'on trouve dans l'afrofuturisme, qu'on trouve chez David Bowie, Space Oddity. Enfin, c'est très très présent en fait, l'esthétique de la SF dans la pop culture en général, du côté des comics aussi, mais aussi voilà dans la musique populaire. Moi, il y a un morceau auquel je pensais souvent quand je faisais cet album, qui est un morceau de Pink Floyd, Set the Control to the Heart of the Sun, et voilà. Là, c'est typiquement une esthétique où on s'imagine comme ça lancé sur une fusée. Voilà, faut voir que c'est le moment où on marche sur la lune. C'est aussi le moment où la musique populaire, le rock en tout cas, explose. Donc c'est complètement connecté depuis longtemps.
Vous disiez autour de ce titre Palmier Sauvage qu'il ne s'agissait pas de faire un manifeste ni de donner des leçons à travers votre musique. Néanmoins, quel est le rôle d'une bonne chanson pour vous aujourd'hui? On sent que vous partez soit de l'universel, soit de l'intime, que les deux d'ailleurs peuvent se rejoindre. Est-ce qu'une bonne chanson pour vous, c'est l'univers qui va se déployer aussi à travers elle, ou c'est surtout une vision du monde très personnelle, subjective, qu'il faut développer?
C'est vraiment l'articulation des deux, incontestablement. Je crois que les plus grande réussite entre guillemets que j'ai pu faire dans ma propre musique, c'est vraiment les chansons qui étaient les plus intimes et qui finalement sont mis à parler à plus de gens. J'ai un morceau qui s'appelle Adieu l'enfance, et voilà, qui a touché beaucoup de gens. Peut-être le morceau sur cet album qui s'appelle Tant que tu respires, où je parle de la mort d'un proche, et finalement c'est celui-là qui revient tout le temps, où les gens pleurent ou m'écrivent des messages pour me parler de cette chanson. Donc je crois que c'est ça la visée, en tout cas l'idéal esthétique, c'est d'arriver à, oui bien sûr, à être absolument intime et personnel, et au moment même où on est personnel et intime, être, dire quelque chose d'universel. Alors après, c'est redoublé dans le disque par un jeu aussi entre une sorte de microcosme de cet enfant que je portais, qui est né et qui va très bien, de vision de l'univers comme ça, du cosmos, qui m'a toujours fait fasciner en fait, à la fois comme amatrice de pop, parce que c'est très présent dans la pop, comme amatrice comme cinéphile aussi. Enfin, il y a des films de Douglas Trumbull, Silent Running, ou même Soleil Vert que j'adore, ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, c'est vraiment des films dont les images m'habitent, et je les ai revus très souvent. Et puis même en BD, voilà, en bande dessinée, et même en philo. Enfin, j'ai enseigné à des étudiants les présocratiques, les cosmogonies présocratiques. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très très stimulant, très fantasmatique, d'imaginer les planètes telles qu'elles existent sans nous, et de les regarder justement, cette sorte de paradoxe que permet la représentation artistique.
On a l'impression que cette singularité du soi est pour vous une des conditions même de l'artiste. C'est la chanteuse et plasticienne Laurie Anderson, à laquelle on vous compare parfois, qui disait au micro de Laura Adler, elle évoquait l'an passé son choix d'écrire des histoires justement en partant d'elle, de ce qu'elle voit du monde, pour résister un peu à ce trop-plein d'informations, et des informations parfois très sombres. Une manière aussi pour elle, disait-elle, de s'élever contre une conception de plus en plus répandue de l'artiste Marc.
Nous vivons dans une ère capitaliste et tout le monde se voit comme une star du rock. Tout le monde se soucie de sa marque, si j'ose dire, son propre branding, comme on dit aujourd'hui. On est un produit. Mais c'est comme ça, que ça se passe. Hein. On a sa page Facebook, on raconte des choses qui vous concernent et qui vous semblent acceptables. Évidemment, on ne parle pas des choses qui ne sont pas très avouables. On se présente sous son meilleur jour, on se vend en fait. Moi, je suis née dans un monde où on n'avait pas à faire cela. records, and we had to tout le monde, bien sûr, des maisons de disques, disaient, bon, allez, pour vendre ton disque, sois souriante sur la couverture. Voilà, ça m'a pas tant surprise que ça, mais aujourd'hui, c'est plus seulement la musique, c'est partout, tout le monde doit se vendre. C'est absurde. Nous sommes tous des clients, en fait. À mon avis, on vit une époque quand même très difficile, et il est très difficile à l'heure actuelle d'avoir le sens du soi, de ce que l'on est vraiment, sans devoir se vendre. I got this postcard and it read, it said, dear amigo, dear partner, listen up, I just want to say thanks, so. Laurie Anderson dans L'Heure Bleue sur France Inter. L'artiste, trop marketée aujourd'hui, vous êtes d'accord avec elle, Agnès Guéraud? Une musique qui peut parfois tourner à l'inauthentique à cause des contraintes que l'on peut faire peser sur l'artiste et sur les albums.
Oui, je crois qu'elle sait ce dont elle parle. Voilà, elle a fréquenté les milieux artistiques new-yorkais et Andy Warhol, et qui est quelqu'un qui avait anticipé ça, à ce moment où tout le monde aurait voilà son quart d'heure de gloire. Et peut-être que maintenant, ce qui a changé, c'est peut-être qu'on attend tous notre quart d'heure d'anonymat, quoi. Tellement tout le monde a son profil sur un réseau social. Et donc, ça concerne pas que l'artiste musicien. En réalité, ça concerne n'importe quel individu qui publie comme ça une partie de sa vie et devient une sorte de personnage aussi sur Internet. Je trouve qu'elle exagère un petit peu dans l'idée que avant on ne se vendait pas. Je crois que dans l'histoire de la musique populaire, le marketing des grosses stars, en tout cas évidemment qu'il n'y a pas que des grosses stars dans cette histoire, mais a toujours existé et c'était déjà un problème pour Michael Jackson au moment où il fait les pubs pour Pepsi. Il est déjà dans cet enjeu. Pris dans les raies, en tout cas, de cette industrie qui est culturelle, qui est d'un marketing, voilà, qui persiste aujourd'hui.
Mais vous prenez garde, néanmoins, vous, à préserver votre indépendance?
Oui, alors j'ai moins de mal à le faire que quelqu'un comme Laurie Anderson, qui est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus connue. Moi, j'ai le sentiment d'être une artiste quand même assez confidentiel, enfin, avec des fans fidèles, voilà, qui me suivent depuis 10 ans, plus ou moins religieusement.
Par la force des choses ou parce que vous avez aussi cherché à l'être? C'est-à-dire que vous n'avez pas créé les conditions du mainstream ou du très populaire?
Oui, probablement. Après, c'était amusant, parce qu'en faisant le livre, je me rendais compte que j'étais un petit peu partagée sur cette question, parce que quand j'écris sur la question de l'utopie de la popularité, je dis que faire de la pop, c'est vouloir faire des hits, parce que il y a un moment où on veut faire une musique qui soit quand même accessible à tous, tout en ayant maintenant une exigence. Mais effectivement, dans les faits, c'est parfois presque, en tout cas, ça paraît très difficile, voire impossible, de faire la musique, une musique qui contient les subtilités qu'on veut y mettre, qui séduisent voilà n'importe qui instantanément. Non, parce qu'en fait il y a toujours plein de médiations et évidemment écouter de la musique, c'est avoir une culture musicale, qu'on le veuille ou non. Donc je crois que je suis à la fois peu connue parce que malgré moi, et en un sens parce que je l'ai voulu.
Parce que vous l'avez cherché.
Voilà, bien, je l'ai bien cherché.
Artiste invité par la NASA, l'agence spatiale américaine, Laurie Anderson. Vous auriez répondu favorablement à une invitation comme celle-là, vous, Agnès Guéraud? Vous auriez aimé qu'il vous contacte
pour travailler avec
ces scientifiques, avec des astronautes, pour réfléchir à cette question spatiale en termes musicaux aussi?
Ah ben, ce serait fantastique, mais un petit message à la NASA. Non, je me sens pas spécialement experte pour apporter quelques idées que ce soit, mais dans le principe, ce serait un sacré coup de marketing.
Cette question, parce qu'il y a une tonalité quand même cosmique dans cet album amplifié par la pochette, où vous ne souriez pas d'ailleurs directement, comme disait Laurie Anderson, on vous demande parfois de sourire, mais où on vous voit dans une sorte de casque d'astronaute, dans une sphère ronde qui peut aussi être assimilée, rapprochée d'un ventre de femme enceinte. C'est un voyage au centre de l'univers que vous avez mis en musique là. Pourquoi il y a chez vous une curiosité particulière pour cet au-delà, cet ailleurs qui est peut-être le plus énigmatique encore qu'il soit, cet ultime inconnu?
Oui, là encore, je pense que c'est des visions à la fois enfantines. J'ai écrit un texte au début qui pour accompagner le disque, qui s'appelle L'archer de Lucrèce, et je pars de cette histoire que raconte, enfin cet exemple que prend Lucrèce dans Des Rerum Natura, où il imagine un archer qui va aux confins de l'univers et qui lance sa flèche. Et ça, c'est pour démontrer qu'en réalité, l'univers est infini, parce qu'à chaque fois qu'il va la lancer, la limite va être repoussée. À chaque fois qu'il lance son archer, on se rend compte que il n'y a pas un mur qui ferait une enceinte à l'univers et contre lequel le jet, le trait viendrait heurter. Et ce sont des choses qui m'ont toujours fascinée comme enfant aussi. On a tous vécu cette expérience de regarder une petite flaque d'eau et d'imaginer que c'était un grand lac. Les variations d'échelle sont... suscite cette espèce de vertige de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et quand j'ai accouché d'un enfant, je me suis dit, mais finalement, c'est un petit peu comme s'il avait été l'archer de Lucrèce et qu'il était, en fait, au lieu de repousser les limites de l'univers, il était carrément basculé dans un autre monde en naissant, quoi. Dans ce monde non plus aquatique et amniotique, qui était mon ventre, mais le monde aérien et plein de bruit. qui est le nôtre.
Oui. Et peut-être de son, c'est presque la bande son de ce que serait cet univers, un voyage universel par cette ampleur que vous lui donnez avec ses déambulations nocturnes comme dans Effet de nuit ou avec au contraire ses balades astrales qui a été largement salué par la critique et notamment par les critiques de La Dispute d'Arnaud Laporte à écouter tous les jours sur France Culture à 19h le 15 octobre dernier. Voilà ce qu'ils ont dit à propos de votre album Vie Future.
Premier tour de table, Clémentine Goldsall.
Il y a quelque chose de complètement organique, de très très beau. Une production que je trouve très intelligente. Elle utilise sa voix d'une manière extrêmement subtile en fait. Et je finirai juste pour dire que c'est un album qui prend à bras-le-corps les problématiques d'aujourd'hui. C'est un album qui s'ouvre avec une chanson sur la crise climatique. Non mais c'est vrai et je trouve que c'est important.
Christophe Comte. Son art musical a pris quand même beaucoup d'ampleur. Ouais. La production, effectivement, est extrêmement belle, très fine et très précise aussi. Et quelque chose m'est apparu que je n'avais pas du tout saisi jusqu'ici, c'est l'influence de Christophe chez La Féline, qui s'entend vraiment de manière presque littérale là, sur ce titre qui s'appelle « Effet de nuit » en plus. Et je trouve que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu dans le paysage de la pop française quelqu'un qui maniait aussi bien des choses aussi complexe et cosmique, tout en restant les pieds sur terre, alors ce qui n'est pas toujours le cas de notre ami Christophe, mais là en l'occurrence, c'est une grande réussite.
Sophie Rosemont.
Donc déjà, des mélodies que je trouve extrêmement bien faites, bien travaillées, une production qu'on pourrait qualifier de chamanique, clairement, et je suis très très charmée, j'adore même cette pop qui est mystique, très arrangée, qui nous inquiète, mais sans nous mettre mal à l'aise, et ça c'est quand même très difficile.
Voilà, l'intégralité de l'émission est à réécouter sur franceculture.fr. Alors, c'est pas souvent que l'artiste peut répondre aux critiques, qui en l'espèce sont quand même très positives. L'écoute faite par les critiques de La Dispute de votre album, est-ce qu'elle se rapproche, ce qu'ils en disent, leurs commentaires, de l'intention que vous y avez mis?
Oui, après, je pense qu'il faut jamais en vouloir aux critiques de leur manière personnelle d'écouter les choses. En plus, bon, c'est vrai que voilà, c'est très positif et c'est ce qui est super, c'est quand la musique inspire des paroles, quoi, inspire un enthousiasme. Et je trouve que c'est ça qu'on entend. Et j'écoute La Dispute depuis très longtemps et j'étais ravie d'entendre que pour la première fois, ils y parlaient de mon disque. Et je trouve le rapprochement avec Christophe est très très juste, c'est un artiste qui compte énormément pour moi. Baby Lacroix, pour moi, c'est un album fondamental. Et c'est vraiment.
Vous l'avez rencontré, vous avez travaillé avec lui.
Oui, oui. Et Christophe, c'est quelqu'un qui a un souci du son. Très important et à la fois de très beaux textes, mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille au cœur de la musique, qui à partir d'une réverbération va être inspiré à chanter quelque chose. Donc je me sens très proche aussi de son modus operandi, de sa manière de travailler.
La Féline, Agnès Guéraud, avec Xavier Thierry, arrangeur, pianiste, réalisateur, son complice pour ce troisième et nouvel album Vie Future. Vous serez en concert le 12 décembre, notamment au Café de la Danse à Paris. Pour l'heure, vous êtes avec nous sur France Culture, dans la Grande Table, jusqu'à 12h30.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jesbert.
Dans un précédent album, vous disiez adieu à l'enfance. Aujourd'hui, vous saluez le cycle de la vie. On écoute « Tant que tu respires », requiem pour l'être aimé, celui que vous a élevé. Respire, extrait de ce nouvel album Vie Future, et à ce titre répond notamment à Agnès Guéraud, Vision de Dieu sur l'enfantement, une double expérience que vous avez vécue de la naissance de votre enfant à la perte d'un proche. Est-ce qu'un court instant vous avez eu le sentiment que cela faisait peut-être sens?
Oui, et ce qui est c'est marrant parce que Tant que tu respires, je lis beaucoup. Voilà, que c'est une chanson sur la mort, et en fait quand j'y pense, c'est vraiment une chanson plutôt sur ce moment où on sent qu'un être s'affaiblit de plus en plus et qu'il va mourir. Et d'une certaine manière, il y a l'idée presque que du continuum. Enfin, entre la vie et la mort, et autant le continuum quand on sort de la vie que quand on y arrive, quand on entre dans la vie. Donc peut-être qu'il y a le rêve, en effet, un peu mystique, qu'entre les deux chansons, il y a une petite porte par laquelle les vivants redeviennent, enfin les morts redeviennent vivants. Oui.
Oui, parce que la suite de Tant que tu respires, c'est peut-être où est passée ton âme, dans cet album aussi, où vous chantez « Il n'y a rien après la mort, elle l'a emporté, il n'y a rien que des corps, je veux vivre et danser ». Le début ou la fin, à défaut de comprendre, peut-être qu'il faut prendre le parti de vivre comme ça, dans l'instant présent, et de vivre à fond cet instant-là. Vous évoquez la part mystique, il y a dans la musique quelque chose de spirituel qui s'impose, une manière de dire et de transcender.
Oui, complètement. Après, voilà, moi, je ne suis pas croyante, mais j'ai une foi dans la musique, c'est certain. Comme à nous, j'estime que c'est une forme qui nous amène à des visions un peu supraterrestres, quoi. Donc, j'avais lu comme ça un entretien de Alice Coltrane qui disait, oh, bon, si vous ne croyez pas en Dieu, ça sert à rien de faire de la musique, quoi. Il s'agit pas d'imaginer un Dieu personnel là-dedans, mais j'essaye d'associer ces deux choses impossibles qui sont un sentiment très grand de spiritualité et de puissance, de quelque chose qui transcende les corps, qui transcende l'existence matérielle, et en même temps la conviction qu'il n'y a que ça, que nous n'avons que cette existence matérielle et que c'est d'elle qu'il faut jouir, quoi. Donc comme la musique permet d'être moins logique que la philosophie.
Et quelle foi en la technologie, quelle foi vous placez en la technologie, en la technique, parce qu'on sent une relation d'attirance-répulsion à la fois, elle est peut-être celle qui nous mènera à notre perte, et tout cet album l'évoque avec ce titre aussi, comme terre entière. On voit que vous l'utilisez pourtant dans la musique pour jouer d'effets vocaux, pour tordre et distordre les sons. Cette touche électronique qui est très très présente, une fois encore, vous avez quelle relation?
Oui, c'est une relation de plaisir esthétique. Déjà, je trouve que c'est aussi l'histoire des sons de la musique populaire, ce sont des sons altérés par des médiations technologiques, et même voilà, une guitare qui crunch, c'est déjà technologique. On a tendance à s'imaginer que les synthés sont plus technologiques que d'autres instruments, mais la techné, elle commence vite si on y réfléchit. Et c'est vrai que pour un disque comme ça, avec ces thèmes, j'avais envie de sons synthétiques, parce que c'est des sons qui permettent de produire des ambiances des ambiances, on dit parfois des synthés atmosphériques, on oublie ce que veut dire atmosphérique, mais il y a des couleurs qui justement coïncide avec ce que j'imagine être le son de l'espace. Pourtant, il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est le vide.
On ne sait pas.
Voilà. Mais c'est des sons aussi à l'intérieur d'un ventre. Enfin, voilà, ce sont des sons aquatiques. Et pour faire des sons aquatiques, une guitare sèche, ça marche moins bien. Donc, je suis allée plutôt chercher des sons
de ce côté-là. C'est un ouvrage de précision, cet album Vie Future, où la mélodie reste centrale. On sent que vous avez aussi envie à chaque disque de développer une nouvelle esthétique musicale, et c'est peut-être là aussi le point de jonction, là où la théoricienne de la musique qu'on recevait pour Dialectique de la Pop, et j'invite les auditeurs à réécouter cette émission, rejoint la praticienne, la musicienne de La Féline pour ce nouveau disque. Merci beaucoup Agnès Guéraud d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Olivia.